L'histoire de la colonisation du continent américain est teintée de sang et d'anecdotes toutes plus sordides et cruelles les unes que les autres. Mais il y a une histoire en particulier dont l'horreur s'est déroulée en arrière-plan, créant un mystère opaque qui fait encore fantasmer les esprits les plus fertiles. La première colonie de Roanoke est établie par l'explorateur Ralph Lane en 1585, sur l'île de Roanoke, au large de la côte est de l'Amérique du Nord. Mais le manque de vivres et les relations tendues avec les tribus natives américaines poussent Lane à abandonner son projet. Il rebrousse donc chemin vers l'Angleterre au bout d'un an et laisse derrière lui une poignée d'hommes pour veiller sur le territoire en attendant de pouvoir se l'approprier pour de bon. La deuxième tentative est menée en 1587 par John White, mais là non plus, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Au lieu d'être un échec anecdotique dans l'histoire de la colonisation de l'Amérique du Nord, le souvenir de cette colonie finira par se propager de génération en génération. Non pas pour son aspect historique, mais pour le mystère qui l'entoure encore aujourd'hui. Parce qu'entre 1587 et 1590, au lieu de s'étendre et de prospérer, la colonie de Roanoke s'est littéralement volatilisée, mais pas sans laisser de traces. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. En mai 1587, quand John White quitte l'Angleterre, sa mission officielle n'est pas de récupérer la colonie de Roanoke, mais de prendre des nouvelles des hommes qui sont restés sur place, puis de continuer sa route jusqu'à Chesapeake Bay. Une fois là-bas, il devra fonder la ville de Riley, qui tiendra son nom de l'homme à la tête de l'opération, Sir Walter Riley, qui supervise tout ça depuis l'Angleterre. John White prend donc le large, accompagné de 115 personnes, y compris sa fille, Eleanor, enceinte, et son mari, Ananias Dare. Fin juillet, après un très long voyage, la flotte arrive enfin sur les lieux de la colonie fondée par Ralph Lane. Le fort est complètement démantelé, les maisons sont désertes, couvertes d'herbes folles, et il n'y a aucun homme en vue, pas même ceux qu'ils étaient censés rencontrer en arrivant. Ce que White et ses hommes trouvent, en revanche, ce sont des os humains. Il n'en faut pas plus pour en tirer une conclusion évidente. Les hommes ont été tués par des natifs américains. Mais la mission doit continuer, et le 25 juillet, tous les colons débarquent et se rendent sur les lieux de la colonie maudite. Et à peine quelques jours plus tard, l'un d'entre eux est tué par des natifs alors qu'il tentait de pêcher des crabes pour nourrir la colonie. Autant dire que c'est pas trop le Club Med comme ambiance. Mais la vie suit son cours. Les colons connaissaient les risques avant de venir, et ils sont bien décidés à mener leur expédition jusqu'au bout. Et tant pis pour ceux qui étaient là avant et à qui on n'a pas trop demandé s'ils étaient OK pour partager. Au mois d'août, Eleanor donne naissance à une petite fille, Virginia. Mais même si la mère et l'enfant sont toutes les deux en bonne santé, les réjouissances sont de courte durée. Force est de constater que la situation est catastrophique pour les colons. Il n'y a ni confort, ni sécurité, et rien ne semble vouloir s'arranger au fil des semaines. Après moult discussions, ils décident donc de renvoyer John White et quelques-uns de ses hommes en Angleterre, afin qu'ils puissent plaider leur cause et revenir avec des renforts. Pas super enchanté à l'idée de laisser sa fille et sa petite fille derrière lui, John White finit tout de même par accepter et quitte Roanoke le 27 août 1587, en promettant de revenir au plus vite. Le voyage est long et tumultueux, et John White n'arrive à bon port qu'en novembre, dans un pays sous haute tension. La guerre anglo-espagnole bat son plein, et les rumeurs disent que l'armée espagnole prépare une attaque sur Londres. La reine Elisabeth Ière prend donc une décision radicale. Aucun navire ne doit quitter l'Angleterre. Ils doivent tous être mobilisés en cas d'invasion pour pouvoir défendre le pays contre l'invincible armada espagnole. Après de multiples tentatives qui tournent toutes à la catastrophe, John White ne parvient à revenir à Roanoke qu'en août 1590, 3 ans après avoir quitté la colonie. Lorsqu'il pose enfin les pieds sur l'île, accompagné de ses hommes, il ne trouve aucun signe de vie. À proximité de la colonie, il découvre 3 lettres gravées sur le tronc d'un arbre. C, R, O. Puis, à l'entrée du site, il découvre non seulement qu'il a été fortifié à l'aide d'une palissade, mais qu'un mot est gravé sur celle-ci. Croatoan. La colonie est complètement déserte. Les maisons ont été vidées de tout ce qui pouvait être transporté, et aucun des bateaux des colons n'est amarré à proximité. Donc tout porte à croire qu'ils ont changé de crèmerie. John White en tire la conclusion la plus logique. Les colons ont fui pour aller s'installer sur l'île de Croatoan, qui se trouve non loin de là, et ont pris soin de laisser cet indice pour que John puisse les retrouver facilement. Le plan est donc simple. Les hommes retournent passer la nuit à bord de leur navire, et ils se mettront en route pour Croatoan le lendemain. Mais lorsque vient le moment de partir, l'un des deux câbles du navire se brise. Et après avoir jeté un œil aux dégâts, on annonce la nouvelle à John. Les risques de naufrage sont trop grands pour une telle mission de sauvetage, et le navire ne peut donc plus se rendre à Croatoan. Mais l'équipage fait une promesse à John. Ils iront tous passer l'hiver aux Caraïbes et reviendront au printemps 1591. Sauf que sur le chemin des Caraïbes, le navire est dévié du cap par des vents violents et se retrouve forcé de continuer jusqu'en Angleterre. Et si vous vous demandez pourquoi plus d'efforts n'ont pas été déployés pour percer le mystère, il faut savoir qu'en plus de l'énorme entreprise que représentait chaque voyage à l'époque, ça arrangeait aussi pas mal Sir Walter Raleigh de laisser planer le doute. Car tant que la mort des colons de Roanoke n'avait pas été confirmée, ils pouvaient continuer à revendiquer le territoire. Au fil des années, plusieurs expéditions sont menées avec plus ou moins de bonne foi pour tenter de faire la lumière sur cette affaire une bonne fois pour toutes, mais aucune réponse officielle satisfaisante n'est jamais apportée. Les colons se sont tout simplement volatilisés, laissant derrière eux une ville fantôme, des bâtiments délabrés et ces fameux signaux gravés, porteurs d'espoir qui, au final, n'auront servi à rien, à part à alimenter les rumeurs. Il existe évidemment un grand nombre d'hypothèses concernant leur sort. La première, et la plus évidente, est qu'ils ont tout simplement été décimés par les tribus autochtones. La seconde, un peu plus originale mais pas complètement déconnante non plus, propose une solution un peu moins brutale. Il se peut qu'ils aient été recueillis par des natifs américains et qu'ils aient rejoint une tribu au point d'y être complètement assimilés en quelques années, abandonnant progressivement toutes leurs traditions occidentales. Il est possible aussi qu'ils aient tenté de rejoindre l'Angleterre par leurs propres moyens, à l'aide des chaloupes laissées derrière par l'expédition de 1587, et qu'ils aient péri en mer. Ça expliquerait pourquoi les chaloupes n'ont jamais été retrouvées par ailleurs, même s'il se peut aussi qu'elles aient été démantelées pour être utilisées autrement. Depuis, l'île de Roanoke a été colonisée avec succès, et plus de 6700 personnes y vivent actuellement, dans des conditions bien plus idéales que leurs prédécesseurs du XVIe siècle. Mais bien sûr, le territoire a été fortement marqué par cette mésaventure. Et si l'on en croit les habitants, de nombreux spectres hantent encore les moindres recoins de Roanoke. Parmi les plus célèbres de ces résidents fantômes, il y a notamment la Dame en Noir, dont l'existence a été documentée pour la première fois en 1902 dans le journal local. Un article paru au mois de mars raconte que plusieurs hommes ont été tout bonnement traumatisés au fil des dernières semaines après avoir croisé la silhouette fantomatique d'une belle femme vêtue de noir. Pourtant, la rencontre se déroule toujours de la même manière. Elle apparaît soudain au coin d'une ruelle sombre, au cœur de la nuit, mais ne fait jamais aucun geste violent. L'auteur de l'article avance alors une théorie. La raison pour laquelle elle fait si peur aux hommes est principalement due au fait qu'ils n'ont pas l'habitude de croiser des femmes à cette heure-là dans les rues de la ville. L'un des témoignages recueillis est celui d'un marchand qui raconte qu'il a fait la rencontre de la Dame en Noir alors qu'il rentrait chez lui bien après minuit. Selon lui, l'interaction s'est déroulée ainsi. Après avoir verrouillé sa boutique, l'homme se met en route vers chez lui, la tête encore pleine de chiffres et de bilans, lorsqu'il est tiré de ses pensées par une voix féminine appelant son nom. Il se retourne et aperçoit à quelques pas de lui une dame, vêtue de noir de la tête aux pieds. Pas très rassuré, l'homme reprend son chemin sans répondre et hâte le pas. Mais derrière lui, la femme accélère aussi. Le marchand se presse, mais là encore, la femme s'adapte et réduit la distance qui les sépare. Au bout de quelques mètres, elle lui adresse à nouveau la parole et lui demande vers quelle rue il se dirige. Le marchand répond « La 12e avenue », mais à peine a-t-il énoncé sa réponse qu'il sent la main de la femme s'abattre sur son épaule. Il essaye de se dégager, sans succès. Puis elle se penche vers lui et lui dit « Vous n'êtes pas le seul homme marié que j'ai raccompagné chez lui ce soir ». Une fois arrivé chez lui, l'homme se précipite dans la cour de son pavillon Mais là encore, la femme le suit. La panique s'empare de lui. Si sa femme le voit accompagné de cette femme, grande, belle et élégante, ça risque de chauffer pour son matricule. Alors qu'il réfléchit à la meilleure façon d'expliquer la situation à sa femme, il sent soudain un courant d'air frais remonter le long de son dos. Et lorsqu'il se retourne, la femme a disparu. Plusieurs hommes témoignent dans cet article du Roanoke Times pour raconter des expériences similaires. Après avoir été accostés de nuit par cette femme, ils ont été suivis, puis elle s'est volatilisée avant que la situation ne dégénère. Le règne de terreur de la dame en noir dure quelques semaines, puis plus personne n'en entend parler. Mais de temps en temps, cycliquement, presque à chaque génération, elle finit par refaire surface avant de disparaître à nouveau. Si vous avez prévu d'ajouter l'île de Roanoke comme étape lors de votre prochain road trip aux États-Unis, laissez-moi vous donner un petit conseil. Allez donc poser vos valises au Roanoke Island Inn. Situé face à l'océan, il vous offrira une expérience 100% imprégnée du charme des petites villes côtières américaines, comme vous en rêvez. Avec ses dessus de lit en patchwork, son mobilier en bois sculpté, ses cheminées anciennes, vous aurez tout ce qu'il faut pour passer un séjour inoubliable. Imaginez-vous confortablement installé dans un grand fauteuil collé à la fenêtre, avec vue sur l'océan, le nez plongé dans un roman, ne relevant la tête que pour admirer le paysage. Et pour jeter un œil à cette étrange silhouette qui vient d'apparaître au coin de la pièce. Tiens, c'était pas dans la brochure, ça. Eh oui, même si les nouveaux propriétaires ne le disent pas, il paraît pourtant que le Roanoke Island Inn est bel et bien hanté par l'un de ses anciens tenanciers, Roscoe Jones. Héritier du fondateur de l'hôtel, l'homme était aussi postier jusqu'à ce qu'il soit viré du jour au lendemain. Profondément heurté et humilié, il a décidé de passer le restant de ses jours enfermé dans son hôtel jusqu'à sa mort. Et depuis, il est courant pour les visiteurs d'apercevoir un homme en uniforme de postier se promener entre les étages, avec la fâcheuse manie de passer à travers les murs, qui laisse un souvenir impérissable à tous ceux qui assistent à la scène. Il existe néanmoins une personne parmi les disparus de la colonie de Roanoke dont on peut encore retrouver la trace lors de certains matins brumeux. Une légende raconte qu'après le départ de John White, une fois le constat fait sur leur situation, les colons se sont effectivement ralliés aux tribus locales. Les autochtones ont accepté de les recueillir à condition qu'ils se plient à leurs rites et coutumes et contribuent à leur hauteur au bien-être du clan. C'est dans ces conditions qu'aurait été élevée Virginia, la fille d'Eleanor et petite-fille de John White, devenant ainsi la première enfant britannique à naître sur le territoire nord-américain. Mais en grandissant, la jeune fille aurait attiré l'attention de plusieurs des hommes de la tribu, y compris celle d'un sorcier jaloux qui aurait très mal pris le fait que Virginia refuse ses avances. Pour la punir, il l'aurait donc transformée en biche blanche et il est dit qu'on peut encore la voir se promener dans les bois de l'île. Il se trouve que cette légende a évidemment été écrite par les descendants d'autres colons qui ont trouvé que ça faisait une jolie fable à raconter aux enfants pour leur rappeler qui est le véritable ennemi dans leur version. Une biche blanche comme symbole de la pureté éternelle de l'enfant britannique, perdu au milieu des sauvages à la peau plus foncée. Comme c'est subtil. Mais le fait est que, quoi qu'on pense du sous-texte, la légende de la biche blanche est entrée dans le folklore local, et les habitants y trouvent quelque chose de tendre et de poétique. L'esprit des colons disparus, personnifié par celle qui est née sur le territoire, changé en un animal si délicat et gracile, c'est sûr, ça fait joli. Si on oublie toute la violence coloniale dissimulée derrière, quoi. Franchement, pour un lieu aussi chargé d'histoire, moi je les trouve cool les fantômes locaux. Hein. Une biche, un postier, une dame en noir qui raccompagne les gens chez eux, ça me donne presque envie de déménager et d'aller m'installer là-bas. Et si j'y meurs, comptez pas sur moi pour rendre des petits services ou apparaître vite fait du coin de l'œil. Je vais lancer un syndic des fantômes, on va manifester en mode merguez frites en chantant l'international et on va voir si ça reste poétique et mignon leur bordel là. Feu de camp est un podcast d'Énergie Création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.